France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Soyez les bienvenus, bonjour à vous, nous sommes le jeudi 5 novembre. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, toujours pas de résultat définitif aux États-Unis, même si Joe Biden se rapproche de la Maison-Blanche. Donald Trump, lui, multiplie les recours dans les États où le dépouillement des votes est toujours en cours et où l'élection présidentielle désormais va se jouer. Nous serons en direct de ces États clés dès le début du journal et à 7h50, Léa.
Oui, deux analystes, deux regards sur l'Amérique. Jean-Marie Guéhenno, ancien secrétaire général adjoint de l'ONU et actuellement professeur à l'Université de Columbia, et l'éditorialiste américain de CNN, David Handelman.
À tout à l'heure, les autres titres, Agnès.
Nous verrons aussi que les députés français suivent de près cette élection outre-Atlantique et notamment la résistance du populisme. L'épidémie de Covid en France avec des brigades chargées de prévenir les cas contacts totalement débordés. Le PSG Rennes en échec en Ligue des Champions. Et puis les tourments de l'adolescence vus par Riyad Satouf.
Et l'invité de France Inter ce matin, 8h20, le grand entretien avec l'ancien ministre de l'économie et du redressement productif Arnaud Montebourg. Il publie L'engagement chez Grasset. Le standard est ouvert et attend vos questions, 01 45 24 7000.
France Inter.
Le Wisconsin et le Michigan. Joe Biden a remporté cette nuit deux états clés de cette présidentielle américaine et se rapproche un peu plus des 270 grands électeurs nécessaires pour accéder à la Maison-Blanche. Tout se joue à présent dans 4 ou 5 états. Bonjour Franck Matevon.
Bonjour Agnès.
Vous êtes à New York pour France Inter, scrutin très très serré donc à l'heure qu'il est, en Arizona, Géorgie, Nevada, Caroline du Nord et Pennsylvanie.
Oui, alors petit débat sur l'Arizona d'abord. Certains médias comme l'agence Associated Press, très fiable, donnent la victoire à Joe Biden depuis hier. D'autres sont plus prudents, mais en partant de cette hypothèse, Joe Biden vainqueur dans l'Arizona, tout va se jouer dans 4 états en fait. Géorgie, Caroline du Nord, Pennsylvanie et Nevada. Et il est en bonne position, Joe Biden, dans 3 d'entre eux. Il est en train de combler son retard en Géorgie et en Pennsylvanie. Les votes par correspondance des villes plutôt favorables aux démocrates sont actuellement dépouillés. Biden pourrait donc coiffer Trump au poteau dans ces deux états. Je crois que vous irez en Géorgie dans un instant. Mais le Nevada, état peu peuplé de l'Ouest, peut lui suffire, 6 grands électeurs seulement. Le démocrate a une courte avance au Nevada. Elle pourrait s'accroître dans les heures à venir et donner la présidence à Biden.
Merci Franck Matevon. On vous retrouve à 7h15 pour un point complet. Et effectivement, nous partons en Géorgie retrouver Gaëlle Joly à Atlanta. Bonjour Gaëlle.
Bonjour.
16 grands électeurs en jeu dans cet État qui avaient voté Trump il y a 4 ans.
Oui, et à peine 30 000 voix d'écart entre les deux candidats en ce moment. Joe Biden rattrape son retard et toute la question, c'est de savoir s'il va doubler Donald Trump puisqu'on dépouille en ce moment les bulletins du comté de Fulton autour de la capitale Atlanta, une terre bleu foncé. Et ce coude à coude, c'est déjà une victoire pour Rico, militant pro-Biden.
C'est une nouvelle ère qui s'ouvre en Géorgie. Chaque année, il y a de plus en plus de démocrates ici et notamment dans les villes. Alors que les choses sont toujours aussi injustes ici dans le sud pour les noirs afro-américains. Il est temps que ça change et ma génération, on se bat pour ça.
Alors tout à l'heure, l'équipe de campagne de Donald Trump a fait savoir qu'elle déposait un recours pour que l'un des comtés de l'État écarte les bulletins de vote arrivés trop tard. Une plainte absurde et sans fondement, estime le militant démocrate Kendrick Smith, avocat à Atlanta.
Personnellement, je suis choqué de voir mon pays comme ça. Je suis très inquiet. Je ne crois pas que Trump enverra des troupes dans les rues et qu'il arrêtera le décompte des voix. Il aurait affaire à la Cour suprême. Mais c'est un sujet très sérieux. C'est un déni démocratique. Democratic values. Do you understand in French
bullshit? Merde. Voilà, vous l'entendez, un peu d'humour dans un climat qui pèse très lourd et qui inquiète beaucoup les militants démocrates ici.
Merci Gaëlle Joly en direct d'Atlanta en Géorgie pour France Inter. Alors cette nuit, après ses victoires dans le Wisconsin et le Michigan, Joe Biden s'est de nouveau exprimé depuis sa ville de Wilmington dans le Delaware. Discours suivi par Claude Guibal.
La démocratie est le cœur de cette nation.
La scène est toujours aussi surréaliste. Joe Biden, à ses côtés, Kamala Harris, seule, devant un parking de drive-in quasiment vide ou presque, Covid oblige, le ton pourtant plante le décor.
Je ne suis pas là pour vous dire qu'on a gagné, mais je crois que quand les comptes seront finis, nous serons les vainqueurs.
En deux interventions depuis le début de cet incroyable marathon électoral, Sleepy Joe, Joe l'endormi, comme l'appelle son adversaire, gagne en envergure, alors qu'on sent la confiance revenue dans le camp démocrate. Un discours bref dans lequel il fait le point sur les États acquis, répète sa confiance à gagner la Pennsylvanie, où tant de bulletins restent encore à dépouiller. Puis viennent les mots de la réconciliation.
Pour avancer, il faut arrêter de traiter nos adversaires comme des ennemis. Nous ne sommes pas ennemis.
Un discours où Joe Biden, surtout, repose les fondamentaux d'une future présidence.
Ce qui nous rassemble en tant qu'Américains est tellement plus fort que tout ce qui peut nous séparer. Au moment de la victoire, ce sera celle du peuple américain, de la démocratie, de l'Amérique. Il n'y aura pas d'État bleu ou rouge quand nous gagnerons. Il y aura juste les États-Unis d'Amérique.
À Wilmington, Claude Guibal, France Inter.
Cette longue attente s'explique notamment par une participation en hausse. Près de 67% des électeurs américains ont voté, c'est un record. Et nombre d'États ont été débordés par les bulletins envoyés par correspondance et les votes par anticipation. Une procédure que conteste d'ailleurs vigoureusement Donald Trump, qui multiplie les recours judiciaires pour stopper les dépouillements. Une stratégie que soutient Sou, elle est militante républicaine au Texas.
Je pense qu'il va gagner. En tout cas, il ne va pas laisser sa victoire comme ça. Il va lancer des poursuites judiciaires. Et c'est ce que font les businessmen. Ils ne lâchent pas l'affaire, ils avancent.
Et si Joe Biden remporte l'élection, est-ce que Donald Trump et les républicains comme vous, vous allez l'accepter?
On n'aura pas le choix, on a bien accepté Obama. Alors oui, nous n'étions pas contents, mais il n'y a pas eu d'émeute, pas de vitres cassées. Nous avons des manières, on sait se tenir. Certes, nous ne sommes pas contents, mais on ne va pas se lancer dans des actions violentes.
Un témoignage recueilli par Valentin Dunat et nous reviendrons en détail dans le journal de 7h30 sur cette stratégie de guérilla judiciaire. Incertitude encore donc dans 4 États et un Joe Biden qui fait la course en tête. Voilà où l'on en est à l'heure qu'il est. Un scrutin suivi de près en France par les députés de la majorité qui s'interrogent particulièrement sur la résistance du populisme outre-Atlantique. Karine Bécard.
Dans la salle des pas perdus, ce n'est pas Joe Biden qui focalise l'attention des députés de La République En Marche. Il le trouve trop différent du président Macron. Roland Lescure, qui représente les Français d'Amérique du Nord, prend tout de suite ses distances avec le candidat démocrate.
Ben on sait depuis longtemps que ce n'est pas un candidat qui est très fort. D'abord son âge, 77 ans, le fait qu'il est en politique depuis toujours et que donc il fait quand même partie un peu du vieux monde.
En fait, ce que voulaient surtout mesurer les députés macronistes avec cette élection, c'est le niveau de populisme qui a donc bien résisté et c'est ce qui inquiète le porte-parole du groupe, Pierre-Alexandre Anglade.
Je crois qu'on est dans un temps où une partie des électeurs, en Europe comme aux États-Unis, attendent des discours radicaux parce que les problèmes auxquels on est confronté sont d'une extrême violence.
Alors d'ici à 2022, Emmanuel Macron devra-t-il muscler son jeu, se radicaliser? Non, pas pour Bruno Bonnell, qui estime qu'il ne doit pas non plus tout simplifier comme l'a fait Joe Biden.
Il a joué le raisonnable contre le fanatique. Je pense que c'est pas là non plus que se joue ça. On va pas gagner contre, on va gagner pour.
Autrement dit, le candidat Macron ne gagnera pas contre Marine Le Pen, mais pour un vrai projet de société. Reste tout de même à le trouver en moins de 18 mois et en pleine catastrophe sanitaire.
Emmanuel Macron qui signe une tribune ce matin dans le Financial Times pour expliquer que la France se bat contre le séparatisme islamiste, jamais contre l'islam. Réaction après un article publié par le quotidien britannique dans lequel le président français estime que ses propos ont été déformés.
Il est 7h09, Agnès. La lutte contre le Covid-19 avec des brigades de traçage des cas contacts totalement débordé.
Car les chiffres s'emballent avec des dizaines de milliers de nouveaux cas chaque jour, plus de 40 000 hier. Les salariés de l'assurance maladie sont chargés d'appeler les personnes testées positives, puis leurs cas contacts. Une course contre la montre sans fin, comme l'explique à Hélène Chevalier Alice, qui travaille dans une brigade dans l'ouest de la France.
C'est au moment du déconfinement qu'Alice s'est retrouvée un peu contrainte et forcée dans la brigade de contact tracing de son département. En temps normal, elle est déléguée auprès des médecins pour l'assurance maladie.
Tout au début des brigades, au moins de mai, on était positionné que sur 2 jours sur 5. Et là, on est 4 jours sur 5, en sachant que le 5e jour, on reprend notre activité initiale.
Dans sa brigade, le nombre d'agents est passé de 50 au début à plus de 200 ces derniers jours. La CNAM a beau continuer à former et recruter des CDD, la liste des personnes à appeler est un puits sans fond pour Alice et ses collègues.
Le fichier ne cesse de s'alimenter toutes les secondes. On se dit, mais c'est pas possible, on va jamais y arriver. Et donc, quand on reprend la journée à 8h le matin, le lendemain, on a à nouveau des centaines de patients zéro à appeler. Donc ça n'en finit pas en fait, hein, mais on fait ce qu'on peut.
Pour continuer à être réactive, l'assurance maladie a dû adapter sa stratégie. Depuis quelques jours, les cas contacts sont avertis uniquement par SMS. Alice n'appelle plus que les patients zéro, ceux qui ont été testés positifs.
En sachant qu'au préalable, ces patients-là ont reçu un SMS leur demandant de préparer à l'avance sur une petite feuille les coordonnées de leurs cas contacts afin que nous, on perde moins de temps au téléphone. Sinon, effectivement, c'est pas gérable.
Sceptique sur ce confinement allégé, Alice a bien peur qu'il ait peu d'effet sur la saturation du travail des brigades.
Autre indicateur hier, la hausse continue du nombre de malades en réanimation, plus de 4000 désormais et 394 décès enregistrés au cours des dernières 24 heures. Et puis à noter qu'en Angleterre, le reconfinement débute aujourd'hui pour un mois. Les défaites françaises s'enchaînent en Ligue des Champions. Le PSG s'est incliné à Leipzig hier soir 2-1, but de Di Maria. Un résultat qui ne laisse aux Parisiens qu'une marge de manœuvre très étroite pour la phase retour. Rennes, de son côté, a été battue 3-0 par Chelsea. Et puis une millième victoire pour Raphaël Nadal. Elle a eu lieu hier à Paris, au Masters 1000 de Bercy. À 34 ans, il rejoint le club très fermé des joueurs à plus 1000. Ivan Lendl, Jimmy Connors et Roger Federer. Enfin, voici le nouveau tome de l'Arabe du futur de Riyad Satouf, tome 5, consacré à l'adolescence du jeune Riyad, moment capital dans sa vie familiale et scolaire. Et bien avant les circonstances dramatiques de ces dernières semaines, Riyad Satouf, dans cet album, rend hommage à ses professeurs qui ont joué un rôle déterminant dans sa vie. Jacqueline Pétrose.
Avoir 14 ans, c'est déjà difficile, mais quand les suites de l'acte odieux de son père s'ajoutent aux tourments de l'adolescence, la vie de Riyad est vraiment chamboulée. Le rôle des profs est alors essentiel. Riyad Satouf.
Pour moi, c'est une catégorie sociale qui est peut-être injustement mal considérée, alors qu'ils sont en première ligne partout. Et c'est à eux qu'on doit de pouvoir réussir à perpétuer la société française avec la liberté d'expression, avec la liberté de critiquer, le doute. Je pense qu'ils font un des métiers les plus difficiles qui soit.
Riyad est un ado pas terrible et peureux, mais il développe des stratégies pour éviter les méchants. Décidément, l'adolescence est un moment très injuste.
On doit survivre quand on est ado. Au même âge, il va y en avoir un qui va mesurer 1m95 et qui va être extrêmement musclé, et un autre qui va parler comme ça. C'est aussi drôle de raconter les stratégies et les techniques pour s'en sortir.
Enfin, pas facile de trouver son identité bretonno-syrienne. Le dessin va sauver Riyad.
Dans la situation familiale qui était la mienne à l'époque, c'était difficile de faire un choix où c'était pas vraiment possible en fait. Donc je me suis choisi comme identité, l'identité des gens qui font des livres, dont je me suis mis à m'intéresser à la vie des dessinateurs, des écrivains. Et donc c'est quelque chose qui m'a aidé peut-être à m'émanciper.
Les copains, les filles, la famille. Ce tome 5 se lit entre rire et œil humide, comme la lettre d'un ami qui se confie et qu'on aime.
L'Arabe du futur, tome 5 de Riyad Satouf, qu'on aime effectivement chez Alary Édition. Riyad Satouf qui sera tout à l'heure à 9h05 l'invité d'Augustin Trapenard et qui signe aussi le nouvel album de Reporters sans frontières, Sans dessin pour la liberté de la presse.
Merci Agnès, c'était le journal d'Agnès Soubiran. À suivre les toutes dernières infos sur l'élection américaine.